Dans moins de quelques secondes, vous pourrez retrouver Didier B pour le journal de 7h. À tout à l'heure.
De la paix. Il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Didier Blé.
Merci de nous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour à tous et bienvenue. 5 conditions doivent être remplies pour une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire. Elles ont été énumérées par Laurent Gbagbo, le président du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI. C'était lors d'un meeting samedi à Marcory. Et puis financement des mouvements et partis politiques et plafonnement des campagnes électorales en Côte d'Ivoire, l'ONG Civis Côte d'Ivoire propose la publication et la clé de répartition des subventions octroyées aux mouvements et partis politiques. Vous entendrez son président dans cette édition. En page africaine, conflit dans l'est de la RDC, un bilan humain dramatique, une situation terrible, nous révèlent les ONG. La revue des titres vous sera présentée par Mel Emmanuel et puis l'invité de la rédaction ce jour est Maître Sylvain Tapi, un des avocats des cadres du PPACI, Kouah Justin et Damana Picasse, contre qui le procureur du tribunal de première instance a requis 20 ans de prison ferme. Merci de nous retrouver. Pour une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire en octobre prochain, 5 conditions doivent être remplies. Elles ont été énumérées samedi à Marcory par Laurent Gbagbo, le président du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, lors d'un meeting qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée Kokoko, lancée le 1er février dernier au village d'Adjamé à Abidjan. Nous l'écoutons.
Si on veut que les élections se passent dans la paix, la tranquillité, et la sérénité, il faut qu'on arrête de brimer ceux qui professent un point de vue contraire à celui de ceux qui sont au pouvoir. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut un organe neutre et indépendant pour organiser les élections. Troisièmement, il faut respecter ceux qui organisent les élections et ne pas les arrêter n'importe comment. Quatrièmement, il faut que les gens de la CEI eux-mêmes se rendent respectables et qu'ils travaillent de façon juste pour que la nation s'en sorte. La cinquième condition, il faut que ceux qui sont inscrits sur les listes électorales soient des citoyens ivoiriens. C'est avant l'élection qu'on crée les conditions de la paix.
Vous écoutiez à l'instant le président du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Le financement des mouvements et partis politiques et plafonnement des campagnes électorales en Côte d'Ivoire, l'organe de veille citoyenne Civis Côte d'Ivoire, donne de la voix et propose la publication de la clé de répartition des subventions octroyées aux mouvements et partis politiques. Nous vous proposons d'écouter le président de Civis Côte d'Ivoire, Dr Christophe Kwame.
En réalité, l'ébauche de loi qui dit que les campagnes électorales doivent être financées, plafonnées, n'existe pas. Il n'existe pas une loi en la matière. Tous les pays développés ont plafonné leur campagne électorale. Et le financement sur fonds publics aussi est réglementé. Donc, à la date d'aujourd'hui, le financement des partis et groupements politiques, il en existe une loi, mais le financement des campagnes et le plafonnement des campagnes, il n'en existe rien à la date d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
Mais qu'est-ce que vous proposez alors?
Nous avons proposé de depuis maintenant une dizaine d'années que l'État de Côte d'Ivoire, premièrement, publie le montant total que nous connaissons, comment le montant est distribué et réparti au niveau des partis et groupements politiques. Donc nous souhaitons que la répartition légale soit publiée par le ministère des Finances, par le ministère de l'Intérieur, par la Cour des comptes, par la Haute Autorité, et si cela n'est pas fait, que le pôle pénal s'en préoccupe. Nous souhaitons aussi vivement une loi existe, une législation existe en termes de financement des campagnes électorales et de plafonnement des campagnes électorales en Côte d'Ivoire.
Vous écoutiez Christophe Kouamé, président de l'ONG Civis Côte d'Ivoire, interrogé par Constant Maillet. Dirigeant d'entreprise, membre du conseil d'administration, actionnaire, institution de financement, ont suivi avec intérêt une grande conférence, c'était donc sur la gouvernance d'entreprise, vendredi à la maison de l'entreprise Abidjan Plateau, à l'initiative de la commission gouvernance éthique et RSE de la CGCI. Il s'agissait pour les entreprises qui s'interrogent souvent face aux chocs internationaux de comprendre la meilleure façon d'absorber ces chocs dans leur stratégie. Les explications de Mata Touré.
S'il y a bien une notion qui fait plus que jamais partie du lexique des décideurs publics et privés du monde de l'entreprise, c'est bien les enjeux géopolitiques pour les entreprises. En effet, pour elles, les chocs internationaux sont devenus aujourd'hui aussi importants que les défis. Des secteurs entiers peuvent être bouleversés par le déclenchement de conflits, l'adoption de sanctions ou la création de blocus financiers ou même de simples élections. La Commission gouvernance éthique et RSE de la CGCI, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, l'a bien compris. Elle a donc organisé cette grande conférence sur la gouvernance d'entreprise sur le thème entreprise et enjeux géopolitiques du monde en 2025. Maître Brisois Bimichel est le président de cette commission.
Turbulence et instabilité économique peuvent parfois amener à des disparitions d'entreprises en série avec leur corollaire de perte d'emploi massive et de crise sociale.
Pour cet échange sur les bonnes pratiques pour la gestion des risques géopolitiques, le conférencier du jour était Alain Juillet, maître de conférence à HEC, Hautes Études Commerciales et l'École d'Administration Française. Il a situé le contexte et les objectifs de la conférence.
Avec cette bascule du monde qui est en train de se passer, quand vous êtes un investisseur, vous êtes une entreprise que vous voulez vous développer au niveau international et même au niveau national, vous devez regarder les évolutions qui sont en train de se faire et regarder dans ces évolutions les opportunités qui s'offrent à vous.
L'opportunité a été fournie aux participants de partager des actions concrètes et surtout des recommandations qu'ils pourront mettre en œuvre pour leur propre organisation ou domaine d'expertise.
La vie des consommateurs nous intéresse dans cette édition. Réduire les coûts des postes à péage de Saint-Grobo et Atengué est une décision qui réjouit les consommateurs. Mais d'autres mesures devraient suivre, notamment relativement à ceux de l'autoroute du Nord et le pont Henri Conan-Bédier. Soutient le président de la coalition nationale des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, SOS Vichère. Et son nom, c'est Soumaoro Ben Fali.
En tant que responsable consommateur, nous prenons vraiment avec beaucoup de joie, mais nous continuons de réclamer. Notamment, je profite de dire que le pont HKB, qui son argent est déjà rentré, les 500 francs, c'est pas trop, mais il faut le faire 500 francs pour 24 heures. Et puis, sur l'autoroute du Nord, il y a trop de péages. Nous allons continuer à discuter avec les autorités quant au montant. Sinon, la route, si on ne paye pas, on ne peut pas l'entretenir.
Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait avoir une incidence sur le consommateur final, par exemple, quand on prend les produits vivriers qu'on transporte depuis l'intérieur de la Côte d'Ivoire jusqu'au marché d'Abidjan?
Madame, ce que je regrette, c'est que souvent beaucoup de sacrifices sont consentis par le gouvernement en renonçant à des taxes, en diminuant des taxes. Ouais. Tout ça là pour le consommateur final. Malheureusement, il y a un groupe qui bénéficie de ces avantages, qui retient et qui ne partage pas avec le consommateur final. C'est ce que nous regrettons. Mais je pense bien que nous allons rentrer en contact avec les concernés pour que vraiment dès que 5 francs est consenti par le gouvernement, il faut que les 5 francs tombent dans l'assiette du consommateur final.
C'était Soumaoro Ben Fali, président de la coalition nationale des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, SOS Vichère. Et puis la nouvelle direction générale des transports de l'IFU est déterminée à faire baisser le taux d'accident de la circulation dans la région. Ainsi, dans le cadre des activités au programme de la 25e édition de la Semaine nationale de sécurité routière portant sur le thème « Le bon état mécanique des véhicules, gage d'une sécurité routière », elle a entamé depuis le mardi 4 février dernier à la gare Dominique Ouattara de Daoukro une vaste campagne de sensibilisation. François Cras.
Le chef du centre de protection civile de l'IFO, Ibrahima Sori Doumouya, revient sur le bilan des accidents de la circulation enregistrés en 2024.
Nous avons pu mener 654 sorties, dont 383 cas liés à la circulation, dont un taux de 58,56%. Si on veut faire un comparatif, 2024 est au-dessus de 2023.
C'est pourquoi le chef de la station locale de la Société ivoirienne de contrôle technique automobile, SICTA, salue le thème de cette campagne, car à l'en croire, l'entretien mécanique des véhicules est une solution pour réduire considérablement les risques d'accident. Ouattara Adama.
C'est comme l'être humain. Souvent, bon, on va faire des visites, on contrôle nos tensions, tout et tout. Le véhicule, c'est un peu ça. Déjà, en amont, ça vous permet de vraiment connaître même l'évolution même de votre véhicule.
Pour le directeur régional des transports de l'IFO, Loba Akassou, l'implication de tous les acteurs du secteur dans la sensibilisation permettra, selon lui, d'inverser la tendance.
Tout ce qui est comme infrastructure de transport maintenant est au niveau de Daoukou. Donc, on pourra maintenant mieux sensibiliser.
Guy François, secrétaire général du syndicat des chauffeurs de Daokro, renchérit.
Avant, nous réglions tous nos problèmes de transport à Yamsokro. C'était compliqué d'avoir le déplacement et souvent il y a des documents que vous ne pouvez pas avoir le même jour.
À la fin des échanges, le délégué du Haut Conseil des transporteurs de l'IFO, Kofi Kwadio, a salué l'initiative des services du ministère des Transports et mis en mission les participants pour assurer le relais auprès de leurs collaborateurs et des populations. François Kra, Daokro, Radio de la paix.
Merci à vous François Kra. Et puis quiconque abandonne, déverse ou brûle des déchets en dehors des espaces aménagés à cet effet, donc, selon les réglementations en vigueur, est passible d'un emprisonnement d'un à trois mois ou d'une amende de 5 à 50 millions de francs CFA. Cette annonce a été faite lors d'un atelier de renforcement des capacités sur l'hygiène publique et la salubrité. C'était le jeudi 6 février 2025. Au sein de l'INHP, à l'intention de la section ivoirienne des journalistes africains spécialistes en assainissement et eau, le réseau WASH JNC. Pour l'occasion, on va écouter le formateur du jour, le docteur Aimé Marie Chiapi. Il est agent au service de l'hygiène générale et de la salubrité à l'INHP.
Nous avons la loi sur le code de l'hygiène et la salubrité qui a été promulguée depuis le 23 novembre 2023. Et au travers de cette loi, on a toutes les sanctions en matière d'hygiène et de salubrité. Donc toute personne qui est prise en infraction s'expose à de l'emprisonnement, allant de un mois à trois mois ou même à une année ou bien plus, et également à des sanctions d'ordre financier qui peuvent aller de 10 000 francs, 100 000 francs, atteindre même le million en fonction de l'infraction constatée, qu'on soit une personne physique ou bien une entité, une entreprise également.
Quelle est la démarche qu'il faut adopter pour un citoyen lambda qui est confronté à ce genre de désagrément? Est-ce qu'il y a un processus à suivre?
Effectivement, il y a un processus à suivre. En ce qui nous concerne, pour un citoyen lambda qui a constaté une infraction, que ce soit peut-être des eaux usées qui sont déversées devant sa porte, ou bien des déchets plastiques qui sont déversés dans le quartier, ou bien des ordures ménagères, cette personne peut s'approcher du service de l'hygiène générale de l'Institut national d'hygiène publique pour porter une plainte en matière d'hygiène générale, et les services compétents de l'Institut national d'hygiène publique vont se déployer sur le terrain, constater ces infractions et passer aux interpellations, et si possible, associer tout ce qui est juridiction pour que la personne puisse avoir gain de cause.
Docteur Aimé Yapi, il est donc agent au service de l'hygiène générale de la salubrité à l'INHP, et puis il informe également les populations de l'existence d'un service de gestion des plaintes à la direction de l'hygiène générale de l'INHP pour tout citoyen qui veut dénoncer une situation désagréable. Et puis, conflit dans l'est de la RDC, un bilan humain dramatique. L'est du pays est en proie à une importante crise humanitaire, amplifiée ces derniers jours par les violents combats qui ont précédé l'investissement de Goma par le groupe armé M23. Le bilan humain est dramatique, disent les ONG, avec des milliers de morts et de blessés. De lourdes dégradations matérielles ont aussi durement touché le travail de la communauté humanitaire. Pour Luc Lamprière, directeur du Forum des ONG internationales, une plateforme qui regroupe 124 organisations internationales impliquant RDC, la situation est terrible et il faut donc faire quelque chose. Et puis, sans plus tarder, nous retrouvons Mel Emmanuel pour la revue des titres. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à tous. Plus nous approchons de la présidentielle, plus les états-majors des différents partis politiques s'activent pour la compétition, comme le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, qui, par la voix de son président en meeting le week-end dernier à Marcory, a appelé à des élections apaisées. Il faut créer les conditions d'une élection apaisée, démocratique et sans violence, écrit La Voix Originale, qui rapporte les propos de Laurent Gbagbo. Emboîtant le pas à son confrère, le quotidien d'Abidjan parle de mise en garde et évoque les 5 conditions posées par Gbagbo pour des élections apaisées. Toujours sur le terrain politique, la renonciation à la nationalité française du président du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, fait couler beaucoup d'encre du côté des journaux proches du parti au pouvoir, le RHDP. C'est l'Essor ivoirien qui ouvre le bal, y consacrant entièrement sa couverture. Présidentielle, double nationalité, Thiam prie à son propre piège. En conséquence, le patriote d'un ton impératif martèle. Président illégal du PDCI, Thiam doit démissionner. La réaction ne se fait pas attendre et paraît sous la manchette de Le Nouveau Réveil, proche du PDCI, qui indique que le président Thiam, sur la question de sa double nationalité, explique et confond les officines du RHDP. L'héritage, en renfort, apporte une réponse claire et directe, citant Tidjane Thiam, « Je n'ai aucun problème de nationalité », fin de citation. Un tout autre sujet dans cette revue des titres de la presse ivoirienne, il s'agit d'un record battu par la Côte d'Ivoire. Tenez-vous bien, il ne s'agit pas d'un record Guinness, mais plutôt du nombre de personnes enrôlées à la couverture maladie universelle, CMU. L'expression, l'Inter, Soir Info reprennent en cœur plus de 17 millions d'enrôlés, ce que l'intelligent d'Abidjan qualifie de première en Côte d'Ivoire. Au terme de notre parcours des unes des journaux ivoiriens de ce lundi 10 février, un dossier sur la filière anacarde. De la quantité à la qualité, le nouveau défi, tel est le titre de ce dossier à lire dans Le Patriote. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci également à vous, M. Emmanuel. Je rappelle qu'on vous retrouve au cœur du journal de 8h. L'invité de la rédaction de ce jour est un des avocats des cadres du PPACI, Kwa Justin Edamana Picas, contre qui le procureur du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau a requis 20 ans de prison ferme dans l'attente du verdict de leur procès le 12 février. Pour lui, c'est purement et simplement un complot contre ses clients. Maître Sylvain Tapi répond à cet effet aux questions de Francis Cassi.
Maître Sylvain Tapi, bonjour.
Bonjour.
Vous avez deux clients, Damana Adia Picas et Kwa Justin, tous deux des cadres du PPACI, qui font face à la justice. Et récemment, le procureur, dans ses réquisitoires, a requis 20 ans pour les deux.
D'abord, on ne peut pas dire qu'on est surpris, parce que ça devient une habitude. Mais pour nous, les faits qui sont reprochés à nos clients, M. Damana Adia Picas, M. Kwa Justin, ne sont pas établis. En réalité, on ne veut même pas avoir ces procès. Puisqu'à partir du moment où les infractions n'existent pas, il n'y a pas lieu de poursuivre.
Donc dans ce cas, parlez-nous un peu de ce qu'on vous reproche à Kwa Justin.
S'agissant de M. Kwa Justin, le reproche qui lui est fait, il semblerait qu'il aurait chauffé, surchauffé ses camarades militants du FPI d'alors. Nous sommes en septembre 2020, les appelant à se tenir prêts, physiquement, psychologiquement, à suivre un mot d'ordre de la direction au cas où la candidature à la présidence de la République de M. Gbagbo serait rejetée par le Conseil constitutionnel. Et c'est ce qu'on lui reproche. Seulement que ce sont des informations obtenues de manière illégale, parce que le procureur n'a pas réussi à nous rapporter la preuve de ce que ces écoutes était légal. Donc c'est de manière illégale qu'il a récolté ses écoutes.
Alors mes maîtres, on pourrait vous rétorquer que même si la conversation a été enregistrée de façon illégale, mais est-ce que la conversation elle-même, objectivement, n'est pas criminelle?
Le fait d'avoir appelé, ça c'est le mode de communication des partis politiques, de se tenir prêt, mais en plus de cela, il a passé le coup de fil le 14 septembre 2020. Le lendemain, le 15, il n'y a pas eu de manifestation. Rien. Le 16, le 17, le 18, le 19, les jours qui ont suivi. Et ce n'est que lorsque le CNT, le Conseil national de transition, dirigé à l'époque par feu le président Henri Konan Bédier, avec des leaders comme Afin Guissant, qui ont appelé au boycott actif, qu'il y a eu des manifestations violentes. Donc, les manifestations violentes qu'il y a eu, ce n'est pas le fait de l'appel de M. Kwa Justin.
Et qu'est-ce que vous, en tant qu'avocat, vous avez rétorqué à l'accusation?
Mais nous avons dit simplement que, au-delà du caractère illégal de la fameuse preuve, il n'y a pas de matérialité en matière pénale. Pour qu'il y ait infraction, il faut des conditions cumulatives, au moins deux. Il faut qu'il y ait des actes matériels, il faut qu'il y ait une intention. Ça n'a pas existé de la part des militants du FPI, proche du président Laurent Gbagbo. Donc, pas d'éléments matériels, pas d'éléments intentionnels, rien. Sur quoi le procureur s'est appuyé pour le poursuivre? Rien, à part un acharnement.
Vous vous qualifiez cela d'acharnement? Mais c'est grave, maître.
Oui, c'est un acharnement parce que, oui, je sais, il a fait la prison de Korogo. Il a fait la prison de Bundiali. Il a fait la prison de Kampina de Bouaké. Il a fait la prison de Dembokro. Il a fait la Maka. Et que sais-je encore? Mais tout ceci, son casier judiciaire est vierge. Hein? Il n'y a pas de condamnation. Et je tiens ça du parquet que, voilà, depuis 2010, ce sont des gens, les pros. Gbagbo, ces militants n'ont jamais accepté leur défaite électorale. Donc, ils remontent en 2010-2011.
Maître, ce que vous dites là, vous dites que vous tenez ça du parquet?
C'était le réquisitoire du parquet. Et que lui, le ministère public, il voit le dos du nageur qui les tient à l'œil, qu'il les poursuivra. Et ça, on peut compter sur lui. Il a tenu des propos très durs vis-à-vis des cadres du parti politique du président Laurent Gbagbo.
Ça, c'était à l'audience?
C'était à l'audience. C'est une audience publique. Tout ceci, il a dit.
Mais maître, mais on pourra vous dire que le ministère public fait son travail. N'oubliez pas que le ministère public est aussi sous la responsabilité du ministre de la justice. Donc, le ministère public est à la fois politique et juridique. Donc, on ne peut pas l'accuser.
Oui, je veux bien l'admettre. Mais vous savez, M. Kassi, en matière de poursuite, il faut qu'il y ait un élément matériel, un élément intentionnel avant de poursuivre. Sinon, si toutes ces conditions ne sont pas réunies, on ne poursuit pas. On casse le dossier sans suite.
On va parler un peu du cas Damana Diapikas. Lui, qu'est-ce qu'on lui reproche?
Alors, Damana Diapikas, on lui reproche d'avoir financé l'attaque du 2e bataillon Projetam d'Abobo à Nkwakouté. Et cette attaque a eu lieu la nuit du 20 au 21 avril 2021. Je rappelle tout simplement qu'à cette date, notre client était toujours en exil au Ghana.
Oui, maître, on peut être en exil, mais commanditer quelque chose ailleurs.
Mais alors, il faudra rapporter la preuve de ce que M. Damana Diapikas a financé, a donné de l'argent à quelqu'un. D'ailleurs, ce dossier, ça repose sur un seul témoin. Un certain monsieur Eni Jean-Claude qui l'accuse. Monsieur Eni Jean-Claude, il a été détenu en dehors de toute légalité à la DST, à la Direction de la Sûreté Territoriale, plus de 153 jours.
Donc vous voulez dire que les choses qu'il a dites là, l'ont été sous la menace?
Exactement. Il a été torturé.
Mais maître, on peut vouloir ne pas dire quelque chose, mais sous l'effet de la menace, on se résout à dire la chose qui est vraie quand même.
Ah non, justement pas. L'aveu doit être libre. On ne doit pas obtenir l'aveu en droit sous la menace, sous la contrainte, ce n'est plus un aveu doit être volontaire.
Mais et si ce qu'on dit est vrai quand même?
Mais ça peut pas être vrai. À partir du moment où vous avez un revolver sous la tempe, à partir du moment où c'est une question de vie ou de mort, on peut vous faire dire n'importe quoi.
Alors maître, mais là, les réquisitions sont tombées 20 ans pour chacun.
Oui.
Et le verdict, c'est pour quand?
Dans les deux cas, c'est le 12 février 2025. Donc nous attendons, nous avons plaidé l'acquittement dans les deux cas.
Maître Sylvain Tapie, je vous remercie.
Je vous en prie.
Merci, cher monsieur. Francis Kassi recevait donc maître Sylvain Tapie, un des avocats des cadres du PPACI, quoi, Justin, et Damana Picasse, entretien qui referme cette édition de 7 heures. Le rappel des titres. 5 conditions doivent être remplies pour une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire. Conditions énumérées par Laurent Gbagbo, le président du PPACI. Il était en meeting samedi à Marcory. Financement des mouvements et partis politiques et plafonnement des campagnes électorales en Côte d'Ivoire. Civis Côte d'Ivoire propose la publication de la clé de répartition des subventions octroyées aux mouvements et partis politiques. Et puis Afrique centrale, RDC, dans l'est du pays, un bilan humain dramatique. Une situation terrible nous révèlent les organisations non gouvernementales. Nous serons là à 8h pour la 2e édition de cette matinée. D'ici là, retrouvez Sonia Ndian pour les Matins de la Paix.